Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h40, bonne fin de journée. On va effectivement défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec le trio magique Cyprien Cini, Céline Landreau, Laurent Tessier. L'info autrement pour apprendre tout plein de choses jusqu'à 19h. Le menu Cyprien.
Ce soir, on vous fait découvrir le monde merveilleux de la sécurité dans les meetings politiques. Entre tensions, gros bras et coups de poing, qui est chargé de tenir les salles? Au menu également, le seul pays de la planète qui n'aurait, paraît-il, jamais croisé un cas de Covid. Les premiers coups de canif dans la belle union de la droite et des seniors qui se mettent au graffiti. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti!
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
À coups de poing et de chaise hier au meeting d'Éric Zemmour entre militants de SOS Racisme et partisans du candidat. Des incidents qui nous ont interpellés sur la sécurité autour des manifestations politiques. Avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu comprendre comment était organisé le maintien de l'ordre dans les meetings.
Qui est chargé de faire la police? Qui est responsable en cas d'incident? Et l'État dans tout ça?
Pour tout savoir, on a contacté René-Georges Kerry. Il a été le patron du fameux service de protection des hautes personnalités. Il a géré la sécurité du Mondial 98. Bref, une pointure au-dessus de la mêlée. Et d'abord, qui est chargé de la sécurité d'un meeting politique?
Les meetings politiques, comme les grands événements sportifs, genre match de foot ou culturel, concert rock, c'est celui qui prend le micro et son équipe qui sont chargés de mettre en place tout le dispositif, des places assises, des hôtesses pour accueillir les gens, les contrôles des passes sanitaires. Dans les matchs de foot, par exemple, on considère qu'il faut un stadier pour 100 personnes. Là, c'est pareil, on est dans la même logique. Il s'agit d'apprécier combien de personnes viendront. Et puis, est-ce que ça va être chaud ou pas? L'autorité administrative a quand même un œil, une déclaration qui est faite, on présente le dispositif et si l'autorité administrative considère que le dispositif est insuffisant, il demande à l'organisateur de le revoir, de le renforcer si c'est nécessaire. C'est l'organisateur qui se débrouille et l'autorité administrative n'intervient qu'en cas d'incident grave.
Donc c'est le candidat qui est chargé d'assurer la sécurité du meeting.
Oui, le candidat ou son équipe ou son parti, bref, tout ce qui se passe à l'intérieur de la salle, c'est de sa responsabilité. Et pour faire régner l'ordre, une solution qui ne doit rien au hasard.
Alors l'organisateur fait appel à des sociétés privées de sécurité. C'était pareil à l'époque où Mitterrand faisait sa campagne. Tous les partis ont leur société de sécurité. Quand je dis chacun a ses propres troupes, ce ne sont pas des gens qui sont recrutés payés par le parti, ce sont des sociétés privées qui ont leur propre statut, mais qui travaillent à titre principal pour tel parti politique ou pour tel homme politique. Ce ne sont pas des militants encartés. Cela dit, je vois mal des gens du Rassemblement National assurer une manifestation de la CGT ou des gens de la sécurité de la CGT venir assurer une manifestation pour Marine Le Pen ou pour Zemmour.
Et l'État n'exerce aucun contrôle?
Alors si, d'abord, avant chaque meeting, il y a une déclaration en préfecture avec tout le système de sécurité prévu qui doit être exposé. Et ensuite, les rôles entre la police et la sécurité privée sont définis clairement par une loi de janvier 1995.
À l'intérieur du dispositif, c'est la société privée de sécurité et l'organisateur qui est chargé d'assurer la sécurité. À l'extérieur, c'est l'État. Et si ça dégénère, à ce moment-là, les forces de police ou de gendarmerie peuvent intervenir. Après, ce qui peut se passer, on prend pour exemple ce qui s'est passé hier. Si un deuxième meeting est proposé à nouveau, alors que le premier meeting s'est très mal déroulé, a été mal organisé, l'État peut interdire une nouvelle manifestation au prétexte que la première a été mal organisée et mal gérée. Il y a une alternative, soit de dire écoutez, vous allez multiplier par deux vos effectifs, soit dire carrément non, vous n'avez pas été capable. On a le sentiment que vous ne serez pas capable de refaire quelque chose de calme, donc on interdit la manifestation.
Et le parquet de Bobigny a ouvert une enquête après les violences constatées hier au meeting d'Éric Zemmour.
Et on y reviendra d'ailleurs sur cette enquête dans le journal de 19h dans un quart d'heure.
RTL, sous les radars.
Et tous les soirs, l'équipe dont défait le monde vous révèle une info que jusqu'ici personne n'a remarqué, enfin personne sauf nous.
Et celle-là, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Nous, pendant qu'on se débat dans notre cinquième vague de Covid, il y a toujours un pays qui fanfaronne avec, tenez-vous bien, zéro cas. Même si on n'est pas obligé de les croire, Laurent.
La Corée du Nord. Ah ouais. Les autorités de Pyongyang assurent qu'aucun cas de Covid-19 n'est à signaler dans le pays. Une affirmation qui est mise en doute par de nombreux experts. Après, cela peut être crédible. Je vous explique. Depuis janvier 2020 et le début de la pandémie, le pays a fermé sa frontière avec la Chine. Il s'est isolé du reste du monde. Par exemple, des diplomates nord-coréens qui sont en ce moment en Europe ne sont toujours pas rentrés. Antoine Bondaz est le chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Le plus important pour les autorités nord-coréennes, c'est qu'ayant conscience des limites de leur système de santé, il fallait à tout prix éviter une flambée épidémique. Et a priori, on l'a évité, puisque, y compris au cours de l'année 2020, avec les quelques observateurs étrangers qui étaient encore à Pyongyang, il ne semble pas y avoir eu de flambée épidémique à Pyongyang.
La Corée du Nord avait dans les années 70-80 un système de santé efficace. Il s'est effondré en grande partie dans les années 90, notamment en termes d'infrastructures à la campagne. Le pays mise donc avant tout sur la prévention, son isolement, ce qui fait que pour l'instant, aucune campagne de vaccination n'a été lancée. Et officiellement, le pays a notamment refusé près de 5 millions de doses de vaccins, notamment de l'AstraZeneca. Mais encore une fois, il faut rester très prudent.
Effectivement. Merci beaucoup Laurent. Petite pause et ensuite on va continuer de défaire le monde dans RTL Soir. On va vous révéler une première info pour briller au dîner. Vous savez que Laurent aime l'argent, qu'il va nous parler d'argent.
Toujours.
Tout de suite.
C'est ce qu'il a dit en plus.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h48, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec une première info pour briller dans quelques minutes au dîner.
RTL, pour les fêtes de fin d'année, dans sa grande mansuétude et sa grande générosité, vous offre un chèque, mesdames, messieurs. 100 000 euros. Grand tirage au sort à venir le 17 décembre. Pour jouer, il suffit d'envoyer RTL par SMS au 74 900.
75 centimes d'euros le SMS.
Merci Céline.
C'est la loi. Il faut toujours préciser les règles d'un jeu.
Bon, donc tout ça, bah, ça nous a donné envie de nous plonger dans l'histoire des chéquiers, n'est-ce pas Laurent?
Oui, il faut remonter au 12e siècle. Quel emballement, c'est merveilleux.
Ouais, c'est pas, 100 000 euros
quand même. Attendez.
Il faut remonter au 12e siècle. Les marchands qui fréquentaient les grandes foires de champagne ont mis au point ce que l'on appelle la lettre de foire, un document signé. C'est une promesse de paiement certifiée par un notaire. Le système se développe ensuite en Angleterre en 1742. Et comme la Banque d'Angleterre avait le monopole des billets de banque, les banquiers qui ne pouvaient plus en émettre ont lancé cette autre forme de monnaie. Alors, il faudra attendre 1826 pour que la Banque de France se lance officiellement sous le nom de mandat blanc. Mais le chèque, sous la forme que l'on connaît tous, est diffusé à partir de 1865.
Petite histoire du chèque.
Et puis pour longtemps, parce qu'apparemment, on fait de moins en moins de chèques.
Il y a de moins en moins de chèques, effectivement.
Bah ouais.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Allez, c'est le moment que vous attendez tous. Chaque soir, Céline Landreau, impitoyable, désigne le winner ou le loser du jour et elle n'est pas tendre.
Et comme c'est bientôt Noël, Céline, vous nous parlez d'un bel esprit de famille, celui de la grande famille des Républicains.
Eh oui. Hola, mio bella Nisa, la famille de droite qui nous envoyait aujourd'hui une carte postale de la Côte d'Azur sous le soleil de Nice. Éric Ciotti accueillait Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, chantre du Rassemblement.
Éric a fait une formidable campagne. Bien maintenant, c'est le moment de l'unité.
Avec donc à ses côtés Éric Ciotti, son rival, défait, mais fair play.
Moi, je souhaite la victoire de Valérie Pécresse.
Ah, c'était beau comme lors du petit déjeuner de campagne, rappelez-vous, au début de la primaire de la droite, quand le patron des LR, Christian Jacob, disait
« Pas parce qu'on est dans une même famille politique, on est obligé de partir en vacances ensemble, mais en tout cas, on est capable de se rassembler autour d'un socle de valeurs et d'idées. Et c'est le travail que nous avons fait depuis 2 ans aux Républicains, sur lequel tout le monde se retrouve. Aujourd'hui, vous n'avez plus de débat sur la ligne.
Ah. » Pas de débat sur la ligne. Une leçon bien retenue depuis l'annonce de la victoire de Valérie Pécresse, c'était samedi. La candidate qui, sur scène, avec Éric Ciotti à sa droite, disait
comme par hasard.
Pour la première fois, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. Notre unité fait notre force.
Ah oui, mais bon...
La famille, ça s'éparpille.
Eh oui, Michel Jonas, et ça peut aller vite. Quelques heures après l'annonce de sa victoire, Valérie Pécresse est interrogée sur TF1 pour savoir si elle reprendra la proposition d'Éric Ciotti de faire un Guantanamo à la française.
Non.
Ah non. Et dès le lendemain, la réponse du Niçois fuse.
Le message qui a été lancé hier n'était pas un bon message.
Bam, un premier tacle en moins de 24 heures. Hier, toujours, Éric Zemmour le cite en meeting, le fait applaudir et forcément ça fait réagir.
Guillaume Pelletier, vice-président de LR et ancien du FN, rappelons-le, a tweeté ceci. Comment rester insensible au discours pour la France d'Éric Zemmour? Un seul adversaire, Emmanuel Macron.
Tout ça alors que dans le même temps, d'autres élus LR fustigeaient le discours de Zemmour à l'unité sur la ligne, on vous disait. Pour Valérie Pécresse, ça ressemble un peu quand même à une ligne de crête qui pourrait être difficile à tenir jusqu'en avril.
Affaire à suivre, l'absence de débat sur la ligne, effectivement. Merci beaucoup Céline. Petite pause et dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner avec Céline justement et Harry Potter.
Harry.
À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h55, bonne fin de journée avec RTL. On continue de défaire le monde effectivement pendant 5 minutes encore avec une nouvelle info pour briller dans quelques instants au dîner.
Hier, Harry Potter fêtait ses 20 ans en France. Oui, il y a 20 ans sortait le premier film de la saga. Alors en grande fan du sorcier, Céline, vous allez nous apprendre quelque chose d'incroyable sur le héros de Poudlard.
Oui, les 8 films sont devenus cultes et ça à grand renfort d'accessoires. 80 baguettes magiques rien que pour Harry Potter. Oui, parce que Daniel Radcliffe s'est amusé à jouer de la batterie avec ses baguettes en permanence. Bravo. Il en a cassé beaucoup, donc 80 baguettes, mais surtout 160 paires de lunettes. Vous savez, ces petites lunettes rondes.
Et comment là, il les a cassées?
Alors, il les a pas seulement cassées, ça effectivement ça arrive, mais il a d'abord fallu les changer de taille au fil des tournages, puisque le visage de l'acteur a changé.
Ah oui, c'est pas vrai, il a vieilli.
Effectivement, il a grandi. Et puis vous disiez, Julien, il y a toutes ces paires qui ont été cassées pour les besoins de l'histoire. Heureusement, Hermione était là pour les réparer.
Oculus réparo.
Ah, ça c'est du latin.
C'est mieux comme ça, non?
C'est surtout un. Enfin, c'est pas tout à fait, je crois, du latin. Réparo, oui, mais Oculus, je sais pas. J'ai un doute, j'en sais rien.
Bah, je sais pas, on va enquêter. Mais il était mieux pas stigmate ou alors c'était juste pour les besoins de l'histoire, Daniel Radcliffe?
Dans la vraie vie, il porte pas de lunettes, je crois.
Il porte pas de lunettes, voilà, ça a deux infos pour briller en une. On va immédiatement vérifier, mais oui, je préfère Harry Potter au chèque.
Bon, je vais à la compta récupérer mon chèque.
Ça vous dérange pas, cher Laurent? Allez, je vote Céline pour l'info pour briller. Vous choisissez le chèque ou Harry Potter pour briller dans quelques minutes au dîner au milieu de la famille.
Marche ou rêve?
Tous les soirs, ça c'est le moment du coup de fil sourire où vous nous racontez de chouettes initiatives.
Au milieu des années 80, le hip-hop en France faisait ses premiers pas. Les taggeurs et autres graffeurs commençaient à recouvrir les murs. Ambiance vandale. Et ben les temps ont bien changé, Laurent.
Oui, puisque ce sont désormais des seniors qui vont sortir leurs bombes de peinture pour taguer avec des adolescents dans le département du territoire de Belfort. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de l'association d'aide aux personnes isolées domicile 90. Racontez-nous, que vont-ils faire exactement? Ce sera un graffiti sur un mur?
C'est ça, oui, c'est même plus qu'un mur d'ailleurs. C'est sur un grand gymnase que la mairie de Danjoutin dans le territoire de Belfort a bien voulu nous mettre à disposition et sur un lieu de très très grand passage. Et donc on va faire un peu plus qu'un graffiti, ça sera, on va appeler ça une œuvre graphique. On est accompagné par un graffeur qui a déjà eu l'occasion de faire pas mal d'œuvres sur le Grand Est de la France. Donc ça sera un peu plus qu'un graffiti, ça sera une œuvre de street art en quelque sorte.
Mais alors qu'est-ce qu'on va voir sur cette œuvre?
Mais j'en sais rien, je ne sais pas du tout puisque notre travail à nous, c'est de faire en sorte de pouvoir permettre ces rencontres entre le graffeur, les personnes ouais, seniors et puis les adolescents. Nous leur permettons avec la mairie d'avoir une feuille blanche pour exprimer un certain nombre de choses. La seule chose qu'on leur demande, l'idée de départ de cette initiative, ça part de la pandémie. Pendant la pandémie, tout le monde était un peu enfermé et nos salariés à nous, elles étaient sur le terrain. Et on s'est rendu compte à la fois combien le lien social était manquant pour beaucoup de monde et que le lien social qui restait, notamment celle de nos salariés, était absolument fondamental. Donc du coup, ce qu'on voudrait, c'est que dans la réflexion des personnes de cet atelier, on mette surtout en valeur l'importance du lien social et intergénérationnel qui persiste malgré les épisodes comme ceux de la pandémie, notamment en 2020.
Et les seniors graffés sur un mur, ils voient pas ça d'un mauvais œil ?
Bah au contraire, je pense que d'abord les seniors sont tout à fait à même d'écrire du rap, ils sont tout à fait à même, enfin voilà, et le street art c'est quelque chose qui, on a passé l'époque de la création du hip-hop qui était dans les années 80, donc les seniors d'aujourd'hui, ils avaient 30 ans dans les années 80.
Alors parmi les seniors qui vont sortir leur bombe de peinture, Anne, elle est en ligne également avec nous. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Vous allez taguer pour la toute première fois, on est d'accord?
Ah oui, oui, complètement, oui. Oui, oui, ce sera la première fois.
Et qu'est-ce qui vous motive dans ce projet?
C'est vrai que le street art, je ne connaissais pas, donc même la technique, et j'apprécie d'en voir. Donc cette fois-ci, je me suis dit que j'avais envie de me lancer avec d'autres personnes sur ce projet. L'aspect intergénérationnel est intéressant aussi.
Et alors justement, vous êtes sur le projet du début à la fin, vous avez envie de dessiner quoi, vous?
Ah, pour l'instant, je vous avoue qu'on est tout début, on a fait une première rencontre et je pense que les adolescents ont aussi des idées, donc il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente. On est encore à l'état de réflexion.
Ouais, c'est super. Eh bien merci Anne, merci Philippe, on prendra de vos nouvelles dans les prochaines semaines pour voir où vous en êtes sur cette fresque. Bonne soirée à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir Anne, au revoir Philippe. Merci les amis,
bonne soirée.
On se retrouve demain 18h40 pour de nouvelles aventures.
À demain.
Dans RTL.